Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Komm mit mir aufs Floß. Ich will dich, ich will dich, ich will dich bloß.
Onde Femme. Onde Femme, c'est sur Radio Zone 93.8. Et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Remue-ménage. Ouh là là, ça grince, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir et bienvenue, je me répète, dans Remue-ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8, comme tous les mercredis, nous nous retrouvons en direct dans nos studios de Ferney. Nous vous rappelons que si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir pendant notre émission entre 17h et 18h30. Bien sûr, quand nous avons des invités comme aujourd'hui, peut-être ne téléphonez pas exactement quand nous parlons, mais profitez d'un temps de musique et c'est très simple, c'est le 450-40-51-41, je répète, 450-40-51-41, 059 si vous appelez depuis la Genève voisine. Aujourd'hui, dans Remue-ménage, eh bien, nous entrons dans la chaleur profonde du mythe. Et avec comme invité Noémie Lafsaison et Sylviane Dupuis. Nous vous en disons plus tout de suite, mais je vous entraîne tout de suite aussi dans la musique de la vision de quelqu'un d'un mythe dont nous allons vous parler tout de suite.
Seul. Ensemble, seul, enroulé à toi, je te cherche encore. Enroulé à toi, ensemble, seul. Au milieu du monde, où sommes-nous? Au milieu du monde, seul, ensemble, seul, appelé à toi, je te cherche encore.
Où es-tu? 12, 12, 97.
Seul. Enroulé à toi, je te cherche ensemble, seul.
Géométrie du hasard, Dédale, pièce chorégraphique conçue par Noémie Lafsaison, en collaboration avec Sylviane Dupuis, toutes les deux avec nous aujourd'hui dans Remue-ménage. La musique, l'espace sonore, c'est Jacques Demière. Les lumières, c'est Jean-Philippe Roy. Le décor et la scénographie, Natacha Jacquereau. Assistant Armand Deladoué, qui est aussi danseur. Christade Carouge, les costumes, les danseurs. Marcella San Pedro, Marcus Siegenthaler, Armand Deladoué, Michael Aristegui et Pablo Di Conca. Bienvenue Noémie, bienvenue Sylviane.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct aujourd'hui dans Remue-ménage pour parler Alors Noémie, de ton nouveau spectacle Géométrie du hasard qui nous plonge dans le mythe du Minotaure. Je ne sais pas si nos auditrices et nos auditeurs se rappellent ce que c'est que le Minotaure. Est-ce qu'on leur raconte l'histoire en deux mots, celle qu'on trouve dans le dictionnaire peut-être, non ?
Quelle histoire ?
Celle communément racontée autour du mythe du Minotaure.
Voilà, c'est ça, parce que je crois que les mythes, on peut parler des mythes des façons tellement différentes. Et il y a tellement des interprétations aux mythes. Plus on est entré là-dedans, plus on a découvert des réponses, pas la réponse au mythe, mais beaucoup, beaucoup des manières de le voir et de réfléchir sur ce mythe. Alors, si on raconte seulement l'histoire qu'on lit dans les petits livres pour l'école, peut-être.
Ce qui est bien, c'est que ça permettra de découvrir justement, de comprendre vos découvertes. Parce qu'il y a l'histoire qu'on raconte tous les jours, puis il y a celle qu'on pourrait trouver en allant chercher, hein, justement.
Alors, il y a Pasiphaë d'abord qui, qui couche avec un taureau.
Un beau taureau blanc quand même, elle a été tentée. Hein. Qui est ce coquin que Poséidon qui lui a envoyé, il ne faut pas oublier,
ouais,
c'est
ouais,
un
ouais,
dieu
ouais,
quand
absolument.
Même.
C'est la naissance du Minotaure. C'est monstre, entre guillemets, je dis ça, monstre mi-taureau, mi-homme, qu'on décide par la suite de l'enfermer parce que ce n'était pas quelqu'un à regarder ou à voir, dangereux. Et on demande à Dédale, architecte, de construire une maison pour ces Minotaures, pour l'enfermer.
Et Dédale imagine le labyrinthe.
Et Dédale imagine les labyrinthes.
Ce parcours incroyable, tortueux, multiple aussi.
Oui. Et
pour arriver jusqu'où se trouve le Minotaure ?
Pour arriver, non, c'était très difficile d'arriver justement. On n'arrivait pas. Et c'est comme ça que le héros Thésée, aidé par Ariane, par les filles d'Ariane,
Ariane, la fille de Pasiphaë.
Et la fille de Pasiphaë, la sœur du Minotaure, arrive au centre du labyrinthe et tue le Minotaure. Enfin, ensuite, l'histoire continue. Mais,
je crois qu'il ne faut pas oublier de dire. La suite de l'histoire, elle est intéressante. D'abord, c'est étrange que tu dis Ariane est la sœur du Minotaure. C'est rare qu'on dise ça. Hein, c'est vrai, c'est un fait, mais c'est rare qu'on le dise.
Non, mais c'est, ouais. Mais c'est ça aussi qui est tellement intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'Ariane qui
aide Thésée.
Qui, par désir pour Thésée, trahit son frère.
Et pour la petite histoire, Thésée va l'enlever, mais il va l'abandonner sur l'île de Naxos.
Absolument, absolument.
Alors, il épousera sa sœur.
Il épousera Phèdre, sa
voilà.
Sœur. Exactement, une histoire de famille pour finir.
Exactement.
Alors, Noémie, tu as choisi de travailler sur le mythe. Tu as choisi beaucoup de choses. Tu avais déjà choisi un mythe. Il y avait eu Médée et Jason. Médée qui mange ses enfants, qui tue ses enfants pour ne pas les laisser à son amant qui l'a abandonné. Ça avait déjà été un choix de ta part de t'approcher du mythe. Ces mythes dont on dit toujours qu'ils sont constitutifs de notre civilisation, de notre être. Ils viennent de la lointaine Grèce. Et puis, toi pourtant, tu dis un mythe, ça n'explique rien. Blâme.
Ça n'explique rien de cette façon cause-effet où on voudrait dire c'est comme ça. Il n'y a pas de comme ça. Je crois que les mythes, on les a en nous très profondément, très enracinés. Et qu'on découvre en travaillant, en se questionnant, tellement de réponses à ces mythes et tellement tout ce qui est à nous d'actuel, de totalement aujourd'hui, ça n'a rien d'ancien. Tout est lié à notre être profond, à notre être profond et à des choses extrêmement archaïques ou sacrées à nous.
C'est peut-être ça la magie du mythe aussi, c'est que à la fois il est très ancien, mais il est toujours ancré dans la réalité.
Oui, puis c'est une structure, le mythe, c'est-à-dire que il propose sa vérité sans doute au départ, mais en même temps il est fait pour être réinventé dès le départ, c'est-à-dire qu'il a évolué déjà dans l'Antiquité et puis aujourd'hui à chacun de nous de le reprendre et d'en faire ce qui nous dit quelque chose aujourd'hui. Voilà, c'est un moyen finalement et puis on joue avec.
Alors Sylviane Dupuis et Noémie Lapsaison, chères auditrices et auditeurs que vous venez d'entendre maintenant, sont réunis dans ce travail. Sylviane Dupuis est poétesse, Noémie Lapsaison chorégraphe danseuse, nous en l'avons déjà souvent accueillie à notre antenne, par chance pour nous. Et alors vous vous êtes retrouvés les deux à travailler sur ce mythe. Noémie, l'idée au point de départ du labyrinthe du mythe du Minotaure, se poser toutes ces questions comme tu viens de le dire, mais une démarche qui ressemble malgré tout à un petit peu à ce que depuis longtemps tu poses comme petit caillou blanc sur ton chemin de chorégraphe, celle de travailler avec des gens qui vont chacun alimenter cette réflexion. Hein? Parce que je lisais quelque part, c'est nouveau, mais moi qui ai la chance de suivre ton travail depuis longtemps, je sais que c'est une démarche que tu fais depuis toujours, de travailler avec des gens qui ont des horizons et des points de vue différents. Alors, peut-être, ce serait intéressant quand même que tu nous expliques, puisque je crois que c'est la première fois, par contre, que tu travaillais avec une poétesse, un poète, je ne sais pas comment tu vous dites, comment tu dis, Sylviane.
C'est égal.
C'est égal. Non, mais une poétesse, la préférence.
Ce n'est pas la première fois.
C'est pas
mais
la première
de
fois.
Cette façon directe, oui, je peux expliquer ça après. Mais bon, avec Sylviane, on s'est connus sur une pièce de théâtre qu'elle a écrite pour une metteuse en scène berlinoise qui a été faite au Grütli et dont j'ai participé. J'avais lu sur Sylviane quelques poèmes, mais là c'était beaucoup plus fort, la rencontre. Et je ne sais pas exactement, ça m'a paru évident que de collaborer avec elle, de pouvoir travailler avec elle pour cette création. Et bon, tu dis que j'aime bien les collaborations. C'est vrai, c'est tout à fait juste que j'aime énormément former une équipe. Et dans chaque partie de cette équipe, amène de soi ce qui est plus fort et ayant laissé les petits cailloux blancs, comme tu dis, ma première proposition est là pour ensuite réunir ce que chacun de ces personnes peuvent amener, c'est-à-dire la musique d'une part, les poèmes à l'occurrence d'une part, la lumière et l'espace scénique. On discute beaucoup, on parle, on se nourrit du mythe et on discute sur la compréhension de ces mythes. Qu'est-ce que ça nous amène à chacun de nous, comment on le voit. Et c'est comme ça que le travail commence.
Et ce n'est pas qu'un travail théorique, chacun donne aussi fait un peu un partage de sa vie, parce que tous ces questionnements ont trait à notre vécu propre, que ce soit les danseurs, que ce soit, j'imagine, même la lumière ou bien sûr l'environnement sonore.
Oui, oui. Bon, on avait décidé pour commencer le travail de questionner les danseurs, hein, sur ce que c'était pour eux le mythe.
Quand tu dis on, Sylviane et toi ?
Oui, on a mis au point des questions.
On avait.
Vous pourriez nous en citer une ou deux ?
Alors en fait, on était parti presque plus du thème du labyrinthe au commencement que de Thésée, Ariane, le Minotaure. Et puis bien entendu, le labyrinthe étant lié évidemment à Thésée, à Ariane, c'est venu. Mais en même temps, c'était vraiment des questions aussi sur le labyrinthe en tant que thème. Ça pouvait aussi déboucher sur ce que représente le labyrinthe pour eux, danseurs, ou aujourd'hui, pour nous, dans le monde où nous vivons. Et par exemple, on a posé la question, bon, qu'est-ce que vous évoque le labyrinthe ou la notion de dédale
qu'est-ce que c'est perdre
Qu'est-ce que c'est que se perdre? Est-ce que c'est angoissant ou plaisant avec quelle partie du corps est-ce que vous traceriez un labyrinthe? Enfin, ce genre de choses qui étaient donc des questions juxtaposées qui devaient un petit peu les surprendre. Ils ne connaissaient pas du tout les questions avant qu'on les leur pose.
Qu'est-ce que la peur, réagir. Comment, est-ce qu'on arrive ou est-ce qu'on n'arrive pas? Où est-ce qu'on arrive? Qu'est-ce que c'est pour toi le centre de ces labyrinthes?
Voilà, tout à fait.
Et les réponses ont été extraordinaires.
Oui, c'était très riche. Très, très bouleversant, parce que très allant chercher toujours dans l'expérience propre, une très, très grande authenticité. Vraiment, chacun répondait tout à fait au plus proche de ce qu'il ressentait. Et il est sorti aussi des interprétations et des idées et des images d'une très grande force. C'était magnifique. Donc, déjà là, on était très contents de ce qui se mettait en place dans ces interviews, y compris dans le fait que une ou deux personnes refusaient d'abord de parler du thème en disant mais moi je suis danseur, ça m'intéresse pas de parler de ce thème, et puis finalement parlait, et c'était extraordinaire parce que c'était comme un fil tiré vraiment qui finalement les renvoyait profondément à eux-mêmes, beaucoup plus loin d'ailleurs même qu'on aurait imaginé. Enfin, c'était tout à fait intéressant.
Et ensuite, alors, après...
Et ensuite, on a commencé justement avec les danseurs. J'ai commencé avec ces matériels. Il y avait les poèmes d'une part et leurs propres réponses sur toutes ces questions.
Les poèmes, alors, juste encore une petite explication sur les poèmes d'une part.
Donc, donc après ces interviews, après les discussions qui ont duré plusieurs mois avec Noémie, des lectures, etc., j'ai laissé tout ça, reposer en moi en me disant qu'il fallait qu'au bout du compte, des poèmes viennent, mais je sais trop que ça ne peut pas venir sur commande, ni par la volonté. J'ai laissé macérer tout ça, au fond, en y pensant tout le temps, un petit peu, et puis en mettant sur le papier des bribes qui venaient, comme ça. Et à un moment donné, vers le mois de novembre, les poèmes se sont accumulés. C'est-à-dire qu'entre novembre, décembre et janvier, j'ai tout écrit. Voilà.
Est-ce que par miracle, Sylviane, tu aurais un de ces petits poèmes avec toi? Alors, pourrait nous dire, ou bien Noémie les connaît peut-être par cœur, ou tu les connais par cœur?
Non, j'ai quelques textes là, mais il y a ceux que tu as lus hier.
Où sommes-nous au milieu du monde? Seuls, ensemble, seuls. Je l'ai mal dit. Au milieu du monde, je te cherche encore. Mais je crois que c'est mieux si on lit un des poèmes.
Là, tu préférerais que je lise ou...
Toi?
Le bruit des feuilles, si délicieux quand on feuillette le livre.
Bon, par exemple, double miroir. Tantôt nous sommes l'un à l'autre, dédale, gouffre, engloutissement, et tantôt ciel et passage des vents ou lac. Il sait mieux que moi qui je suis, le chemin de mes pas. Voilà, c'est deux poèmes parmi les 21.
Alors, avec ce travail, Noémie, tu disais, tu es d'un côté les poèmes écrits très courts, un peu comme les haïkus japonais, enfin, ça me donne cette inspiration. Et puis de l'autre côté, toute cette richesse de la réflexion des danseurs. Et tout à coup, le mouvement s'ajoute à la chose.
Oui, c'est-à-dire qu'avec ces matériels, on a commencé à faire des improvisations. Et tout en lissant tout le temps, en échangeant des idées. Et sur ces improvisations, bon, c'est là où il y a choix. On commence à dire, ça c'est valable, on va retravailler, j'arrête les danseurs quand il y a quelque chose qui me semble très juste, pour le répéter, pour le refaire, pour le changer, pour travailler sur ce qui était ses premiers traits, je dirais. Bon, c'est comme ça que à peu près s'est fait le travail chorégraphique. Ensuite, il y a eu Jacques, qui est à peu près en même temps, un peu plus tard. Jacques est venu travailler avec les danseurs sur des morceaux, des musiques. Musique, c'est-à-dire des chuchotements, de petites chansons, des
scansions presque.
Oui, là aussi, les poèmes font partie de ces chuchotements ou de cette manière de couper les mots qui est tellement typiquement Jacques.
Donc Jacques Demierre, pour les auditrices et auditeurs qui ne seraient pas intimes de l'équipe de travail de Noémie.
Donc ça donne des petits moments musicaux où les danseurs deviennent musique, je dirais, amenés par lui, dirigés par lui. Et lui qui est sur scène. En même temps, c'est assez complexe parce qu'il est derrière une table avec un ordinateur qui a des disquettes différentes. Et il déclenche les sons en traversant ses mains, en passant ses mains sur une lumière, à travers une lumière.
Pour nous qui sommes spectateurs ou spectatrices, il y a quelque chose de fabuleux dans la présence de Jacques Demierre, c'est qu'on a l'impression qu'il danse d'une certaine façon, parce que moi en tout cas qui n'y connais rien à ce système de diffusion du son, je le voyais, il est de face à nous en tant que public et il a effectivement une gestuelle dont si on ne connaît rien à cette histoire, même si on l'a vu sur le programme, pour moi c'est du charabia, ça ne veut rien dire. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'est en train de faire Jacques Demierre? Il est en train de danser, il est en train de diriger un orchestre des voix avec ses mains. C'est très très étrange. Après quand on découvre à quoi ça sert, ça devient encore plus magique. Mais disons rien que sa présence l'est comme telle.
C'est vrai, mais aussi il faut dire que Jacques, il a des mains extraordinaires. C'est mains de pianiste, non, comme il l'est, mais c'est des mains très particulières.
Il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'il va faire travailler la voix des danseurs. Les danseurs vont vraiment être multiples dans ton travail cette fois-ci, Noémie. C'est que non seulement ils s'expriment par le mouvement, mais par la voix. Et j'allais rajouter quelque chose maintenant, j'ai oublié.
Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a des sifflements, qu'il y a des chuchotements, qu'il y a des moments des parlottes, des petits mots comme ça.
Mais à un moment donné, ils sont carrément un orchestre. Jacques est devant eux, il les fait travailler, on les dirige, on sent qu'il les mène avec ses mains pour qu'ils chantent ou ils parlent.
Ouais. Et au début, ils produisent même de la musique, puisque les sons très légers qu'on entend au début et qui sortent de tous les coins du plateau, dans le noir, sont produits par les danseurs sur des petits pianos qu'ils tiennent à la main, des toutes petites choses électroniques. Et ce sont eux qui produisent le premier son, en fait. Effectivement, ils sont pris dans la parole, la musique, le corps, la danse, et ils sont au centre de toutes les tensions et de toutes les énergies, au fond.
Et si on veut encore parler de la musique, il y a aussi une installation qui est faite en dessous du public avec des petits haut-parleurs, avec des sons. En fait, c'est une minute d'une partition de Bach qui a été étirée à une heure. Donc, les sons viennent avec beaucoup de silence entre deux, mais d'une façon très léthanique,
comme des gouttes.
Oui, oui. Et pas tout le monde entend la même chose.
Hein. Et en plus, on a l'impression que ça nous tourne autour de la tête. Vraiment, on a l'impression des fois que c'est tout en haut, un peu de côté. C'est... On est vraiment pris dans un environnement sonore qui bouge en plus. Et il y a quelque chose de fascinant à un moment donné, c'est qu'entre la lumière, qui est aussi extrêmement captivante, soit elle nous enserre parfois dans un grillage de rayons lumineux, soit elle nous englobe dans une lumière très blanche comme ça qui nous prend, soit par la musique dont on vient de parler, soit par ce qui se passe dans le mouvement entre les danseurs, tout à coup notre imaginaire peut s'échapper complètement et je suis sûre que si on questionnait les spectateurs, chacun aurait 120 histoires à raconter au vu de ce qu'il a vu.
Quel bonheur, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui.
C'est vrai, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce que tu espères, quelque part.
C'est-à-dire que si on n'éclenche pas, si on n'ouvre pas l'imaginaire du public, je crois qu'on a raté quelque chose.
Mais souvent on dit, les gens sont souvent très inquiets avec la danse parce qu'ils disent, mais on ne comprend pas ce que ça raconte. Donc je suppose qu'il y a des gens qui arrivent à ce spectacle comme à d'autres en disant, ah, le labyrinthe, le Minotaure, alors on va voir l'histoire du Minotaure racontée. Or, je suppose que ce n'est évidemment pas du tout ton propos.
Non, pas du tout. Mais effectivement, je voulais amener des images qui ont à voir avec cette histoire du Minotaure, selon la manière que j'ai de les voir. Il y a des petits bribes symboliques, je dirais aussi. Par exemple, le fil rouge qui apparaît parce que Marcella tricote ou vers la fin, quand on tue le Minotaure. C'est-à-dire que sans illustrer, si tu veux, l'histoire, c'est une manière de que ces mythes soient présents, qui reviennent continuellement à travers des images.
Hein. Entre autres. Trois Thésée. Il y a tentative de montrer que Thésée peut être un personnage très différent.
Mais on est tous des personnages très différents. Donc Thésée, pour moi, c'était le même Thésée, mais c'est trois facettes du même homme. Peut-être trois, sûrement ce n'est pas assez, mais c'est aussi une manière d'aborder le désir ou la relation à l'autre, à la femme, de manière différente.
Sylviane, comment ressens-tu la fonte de tes poèmes dans cet environnement ? Parce que très souvent, ils sont... coupé, cassé, tiré, enfin, et on fait. Jacques Demierre a finalement fait beaucoup de choses avec. Alors, comment toi tu le ressens maintenant, au vu du travail terminé proposé aux spectateurs, aux spectatrices?
Alors, je crois que, disons, il y a une sorte de contrat entre nous dès le départ, c'est que d'une part, chacun de nous fournit un matériau, une partie du spectacle, d'autre part, laisse les autres libres. D'agir aussi. Noémie a respecté ça de façon absolument étonnante parce que je n'ai eu aucune sorte de contrainte pour l'écriture des poèmes, ni Jacques aucune sorte de contrainte pour la musique qu'il amène, ni rien. Donc voilà, ce sont des libertés qui s'ajoutent et qui essayent de faire quelque chose ensemble. Alors, par conséquent, il me semble que Jacques était libre de faire avec les poèmes ce qu'il voulait dans le cadre du spectacle. Les poèmes ont nourri une partie de la chorégraphie de façon invisible. Et puis, il y a aussi ce qui en invisible. Surnage, invisible, j'entends.
Pour moi,
non,
c'est
visible. Par rapport tu au sais, texte, mais, c'est, mais c'est là, c'est évidemment là. Donc, je n'ai aucune sorte de sentiment de frustration. Parce que les textes sont partie prenante comme des pierres dans un bâtiment. Et puis, il y a ce qui en apparaît sur le plan sonore, il y a ce qui n'en apparaît que dans la chorégraphie, mais qui est là, je crois. Il n'y a pas de problème.
On avait essayé beaucoup de manières différentes d'amener les poèmes. À un moment donné, Armand, il a appris les 21 poèmes. Et il le disait l'un après l'autre,
Donc Armand Deladoé, compagnon de longue route de Noémie, qui est lui-même comédien, danseur et qui était assistant pour toi dans ce spectacle.
Voilà.
Et qui est le Minotaure, précisons-le.
Eh bien, pour moi, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça la manière de percevoir les poèmes de Sylviane, qui sont extrêmement... Enfin, je lui dis toujours, et encore maintenant, chaque fois que je les lis encore et encore, je les trouve de plus en plus beaux, de plus en plus riches. Voilà, alors ça, ce n'était pas une solution. Et Jacques avait trituré les poèmes, effectivement, dans la musique même. Ensuite, on a fait des essais où on a enregistré... Moi, j'ai enregistré 3 de ces poèmes qui passent...
Dont nous en avons entendu un tout à l'heure.
Voilà, qui passent à des moments différents de la pièce.
Alors, le temps file comme un éclair, Noémie, qui doit redescendre pour travailler avec ses danseurs et danseuses. Oui, elle fait un air très, très étonné.